Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pour moi, c'est bon. C'est où, mais après, ça reste pas sa vie. C'est bon pour moi.
Et pourquoi, quand on va la voir et qu'on voit les images, les mecs, ils ne font pas les mêmes images que nous? Ça, c'est un scandale.
Tu vas mettre un deuxième avertissement, Fonseca est rouge.
Exclusion du coach. Oh là là.
Mais la VAR, mais que fait la VAR?
Vaut mieux l'arrêter si on ne veut pas qu'elle vienne contredire les arbitres.
Il joue jamais le ballon et il déséquilibre. Il va contrôler le ballon, Guessant, et l'autre va toujours le tenir.
Je vais rester sur Papeno, je préfère
Papeno. Ok, pas de problème.
La VAR, on la maudit et d'autres fois, eh ben, on la vénère.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et ce soir, les Lyonnais vont la maudire, là-bas, on va en reparler dans l'after, bien sûr. Bonsoir à tous, on est là jusqu'à minuit sur RMC, sur After Foot TV, sur la chaîne YouTube de l'after, bien sûr, l'after toujours première radio de France le soir. Avec Florent Gautreau, salut Florent.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec le retour de Samuel Umtiti.
Salut à tous.
On s'est dit, bon, Samuel est là, il se peut se passer qu'un seul truc, une calife, tranquille. Après le match aller, on était confiants. Et puis, bah non, élimination de Lyon, qui jouera donc l'Europa League. Alors, Europa League, c'est aussi une belle Coupe d'Europe, hein, c'est un moindre mal, mais ils seront en Europa League, les Lyonnais, tous les jeudis, avec Marseille, cette année également, notamment. Qui d'autre est en Europa League? J'ai un trou.
Rennes,
bien sûr. Rennes. Et Monaco peut-être en Conference League, on saura ça demain. En tout cas, donc, Fenerbahçe est gagné à Lyon demain, beaucoup de choses à dire ce soir. On ira également en Espagne avant minuit où le Real a battu la Real Sociedad 4-1. Gargolo sera avec nous. On démarre avec les 3 points tout de suite.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Florent.
C'est une soirée Qatar. On avait dit l'enjeu hier a été capital pour Lyon, à la fois sportivement, mais aussi financièrement. Donc, la première des conséquences, c'est que c'est effectivement une énorme claque et une grosse déception. Le deuxième point, ce sera quand même, on l'avait dit aussi hier avec Walid, le fait que l'OL choque à domicile. Et c'est vrai que c'est pas la première fois sur les matchs importants, je veux dire, entre la fin de saison et là. Donc, Fonseca, on en reparlera. Pour moi, le début de match, les 20 premières minutes, elles sont aussi un peu, elles lui sont un peu imputables. Et puis, le troisième point, ce sera quand même sur la suite de la saison, c'est-à-dire que maintenant il faut voir ce que va donner cette OL, à la fois sur les départs de joueurs, parce que tu l'as dit, Europa League, Ligue 1, mais on attend de voir maintenant ce que va donner l'effectif lyonnais pour cette saison particulière.
Samuel.
Premier point, c'est cette défaite de l'Olympique Lyonnais, une grosse déception, beaucoup d'attentes déjà par rapport au match aller. Ensuite, sur le deuxième point, cette défaite va conditionner, je pense aussi, le départ de certains joueurs. Et pour moi, c'est un point très important vu, on va dire, cette saison qui va être importante pour l'Olympique Lyonnais. Et le troisième point, j'ai envie de revenir sur le match et sur l'effet de jeu, peut-être hors terrain, sur ce qui s'est passé à la fin avec ce Matteo Guendouzi qui a un peu chauffé ce public lyonnais. Il y a des choses qu'on ne devrait pas voir et j'ai envie qu'on en discute.
Démarrons par ça, parce que Guendouzi, ça a démarré à l'échauffement. D'ailleurs, on vient de revoir sur Canal un petit montage où Guendouzi, en gros, il répondait sans doute à des insultes. Hein. Je veux dire, voilà, il s'est fait insulter tout le match, Guendouzi. Enfin, c'est le lot d'un footballeur professionnel. Tu as vécu ça sans doute dans certains stades, Sam.
Il y a l'opposition au LOM, voilà, en toile de fond.
Dès l'échauffement, parce qu'Edouard nous l'a signalé, dès l'échauffement, bon, bah, il faisait des doigts d'honneur au public, il répondait en disant viens ici, voilà, ça s'est continué après le match et ça s'est fini en bagarre. Il est responsable à 100%, c'est n'importe quoi, c'est une petite frappe. Qu'est-ce qu'on doit dire?
Moi, je pense que c'est, ça fait partie du football de chambrer. C'est normal. Il a joué à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est normal qu'il y ait cette rivalité-là. Mais je pense qu'il faut rester quand même mesuré à un certain moment. Et on sait très bien la réaction de certains supporters qui ont cette rivalité-là. Donc, c'est bien de chambrer une fois, deux fois. Mais là, on l'a vu. Il voulait limite pas s'arrêter. Je pense qu'au bout d'un moment, stop, tes coéquipiers te disent rentre dans les vestiaires, on va le célébrer. C'est normal de célébrer, faut laisser Fenerbahçe célébrer. Mais au bout d'un moment, stop, quand tu vois que ça dégénère, bah, t'as un peu de maturité et tu rentres. Et je pense que là, il a dépassé les limites, je dirais. Oui et non, parce que non plus il a pas non plus tapé quelqu'un, mais il sait que son comportement peut faire dégénérer les choses et c'est ce qui s'est passé ce soir.
Bon, moi sur Guendouzi.
En plus, paradoxalement, il a fait un bon match en plus.
Je pense que c'est quand même important de souligner ça. On est revenu sur plein de choses, là, sur l'arbitrage, sur le fait que seuls les capitaines peuvent aller voir l'arbitre. On essaie de on va dire de donner une image plus fluide dans le jeu et plus tolérable en général du foot. Je pense que ça, franchement, on doit plus le voir. Ce qu'on a vu avec les Argentins à la finale et qui a été sanctionné durement par la FIFA, tu vois, après coup là, avec les suspensions. Je pense que là, il faut qu'il y ait une sanction pas symbolique mais forte pour Guendouzi sur cet après-match.
Oui, mais ce que lui va dire que il a pas fait grand chose parce qu'au final il a juste chambré, il a pas insulté, il a pas manqué de respect, et au final il l'a chambré. Et final tu veux le sanctionner sur quoi? Moi, je pense que ça doit venir de lui et même de ses coéquipiers.
Mais ses coéquipiers ont essayé de le calmer,
bien sûr.
Il y a des images où tu vois ses coéquipiers qui lui disaient bon maintenant c'est bon arrête, et lui a continué. Moi je pense quand même que à un moment donné il faut faire appel à l'intelligence des footballeurs, c'est-à-dire que la plupart comprennent parfaitement qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui se font pas. Tu l'as dit toi-même, tu chambres, tu réponds à la limite sur la célébration d'un but, il l'a fait déjà pendant le match, ok. Et puis derrière, à un moment donné, il faut s'arrêter. Je pense que c'est un comportement anti-sportif et que ça peut se sanctionner à ce titre. Donc après, j'ai vu les sanctions post-finale de la Coupe du Monde.
C'est différent là, quand même.
C'est différent, mais il y a des choses qui sont passées de la part du banc, d'Ayala et tout, tu sais, post-match, quoi. Ils ont été sanctionnés également.
Bon, donc... après là, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont quand même tapé les mecs. Ouais. Ayala, il a mis une droite.
Je te dis pas que Guendouzi doit prendre 10 matchs. Je te dis juste que si ça n'est pas sanctionné, tu auras ce genre de comportement une autre fois et Guendouzi recommencera une autre fois.
Moi, sur WhatsApp, là, j'ai Franck qui me dit les Ginola, des Dugarry, ils se sont fait insulter dans tous les stades de France, ils n'ont jamais répondu en mode racaille comme l'a fait Guendouzi ce soir.
Bon. Oui, après, pour moi, il y a des choses à ne pas faire et je pense que tu peux répondre, tu peux sourire. T'as gagné, donc tu célèbres avec tes coéquipiers, tu veux chambrer un peu les supporters, il y a pas de souci, mais après tu rentres dans le vestiaire et là ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait 5 mètres, il continuait, il en faisait 5 autres et même ses coéquipiers lui disaient c'est bon, on rentre.
Ouais.
Et ça je pense que oui, l'intelligence au bout d'un moment, tu dois te dire stop et il l'a pas fait.
Revenons sur deux faits de jeu avant de rentrer dans l'analyse un peu plus générale du match. Je viens de revoir le hors-jeu du but de la tête d'Openda.
Et alors ?
Mais moi, pour moi, il n'y a pas hors-jeu, en fait.
Non,
je ne comprends pas.
Pour toi, mais...
Ils sont sur la même ligne, il a la tête un peu en avant.
Il doit y avoir comme tu dis, moi, je pense que dans l'esprit, c'est terrible. Mais maintenant, moi, si tu veux, je t'aurais dit à une époque...
Ça, c'est le premier but refusé. Après, il y en a sur le deuxième. Ouais,
le premier but refusé, pour moi... c'est la nouvelle époque, c'est le football 2.0. C'est-à-dire que
c'est le hors-jeu au centimètre.
C'est pas mon foot, mais c'est le hors-jeu.
C'est pas l'esprit, quoi.
C'est-à-dire que là, t'as une action magnifique, t'as un but qui est à peu près, donc il est quasiment sur la même ligne, peut-être un peu devant, un peu derrière. L'arbitre peut l'accorder, mais la VAR revient, c'est terminé. Moi, j'ai plus rien à dire. Je suis pas favorable à la VAR. Je pense que dans l'esprit, si l'arbitre dans un ancien temps avait accordé ce but-là, les joueurs de Fenerbahçe n'auraient rien dit
sur cette coûte cher à Lyon ce
sur
soir.
Cette situation. C'est différent sur le deuxième où il y a plein de situations un petit peu complexes, mais sur ce premier but, c'est la VAR. Donc on peut pas non plus pleurer après ça. Moi, je veux dire juste un truc avant que tu fasses ces points-là d'arbitrage et de VAR. Malgré tout, puis je sais qu'on va y revenir après, mais. Si on dit que c'est sur ce point-là que Lyon perd, je ne suis pas d'accord. Je pense que malheureusement, Lyon perd un peu à l'aller et beaucoup sur les 30 premières minutes du match.
Je pense que quand même sur la première mi-temps, oui, ils perdent sur la première mi-temps. Après, sur le match aller, je pense quand même que c'était pas mal. Même dans l'engagement sur la première mi-temps, défensivement, il y a des grosses lacunes. Ils ont gagné quasiment aucun duel. Donc, je pense qu'ils perdent ce match-là sur la première mi-temps.
C'est pour ça que moi, ça m'embête, Gilbert. Je veux bien qu'on en parle, hein, tu sais, des faits de jeu, là. Et on va en parler.
Forcément, parce que tout le monde va en parler.
Oui, mais on va en parler. Mais moi, je pense vraiment que si les Lyonnais avaient été protagonistes, s'ils avaient joué plus haut, s'ils étaient allés chercher Fenerbahçe et non pas l'inverse, puisque c'est le Fener qui jouait plus haut en première, et qu'ils étaient victimes d'une injustice, ok, je serais d'accord pour le faire. Moi, je pense que l'OL ce soir n'est pas victime d'une injustice, même si effectivement, je pense que ce premier but aurait pu être accordé, mais la VAR l'a refusé. Je pense qu'ils ont raté, et c'est pour ça que c'est un de mes points, c'est le problème Fonseca qui, dans ces matchs-là, tu vas pas me dire que si le coach...
Tu penses que c'est le coach ?
Je pense que... Est-ce que tu penses que si le coach leur dit « on joue haut, on va les chercher » et haut, tu vois ce que tu as vu pendant 20 minutes ? Est-ce que franchement, s'il leur dit 10 minutes avant le match, tu penses que c'est les joueurs qui sont installés dans leur camp ?
Et que je pense que je l'ai déjà vécu, c'est que même si le coach il met certaines choses en place, des fois, il y a des matchs où tu... c'est pas le coach qui décide, même s'il te donne des consignes à respecter. Mais quand t'es sur le terrain, il y a des choses que tu sens. Et peut-être que les joueurs, à ce moment-là, ils ont pas senti le fait d'aller chercher, le fait d'aller mettre cette équipe, d'acculer cette équipe du Fenerbahçe. Donc, je pense que quand tu joues à domicile, t'as fait 1-1 au match aller et que tu sais que tu les as mis en difficulté en allant les chercher, je pense que Fonseca, c'est ce qu'il voulait. mais ils n'ont pas réussi à
mais
le
alors
faire.
Dans ce cas-là, ça veut dire que soit effectivement les joueurs n'ont pas eu le mental pour le faire, et tu as des joueurs comme Tolisso qui sont capables de, dans ce cas, de réveiller un peu la machine, c'est un vrai souci. Et même Fonseca, je dirais, sur le banc pendant la première période, je pense que, comme ce n'est pas la première fois, on en a parlé hier, et on s'est dit, moi je ne pensais pas que ça allait chuter sur un match contre le Fener en barrage. Je pense qu'il a des limites, Fonseca, qu'on a déjà vu, mais un peu plus tard, un peu plus haut. Et c'est vrai que Walid en parlait, on se disait, oui, mais rappelle-toi le 4-0 l'an dernier, enfin, en fin de saison, rappelle-toi ces deux matchs qui pouvaient les amener directement en Ligue des Champions qu'ils n'ont pas gagné. Et c'est vrai qu'il a des stats, et y compris à domicile, qui montrent que voilà, il ne transmet pas en tout cas à ses joueurs cette volonté-là. Tu vois, sans parler de Luis Enrique tout le temps, mais c'est vrai que si tu dis à ton équipe, même au bout de 10 minutes, que tu les vois acculés sur leur but, qu'il faut jouer différemment, à mon avis, il se passe quelque chose. Et là, on a attendu la mi-temps pour voir, enfin un peu avant quand même, effectivement, on a revu quand même des choses mieux, mais je pense vraiment que...
Même c'est pour ça que je dis que moi, même si, bon, Fener, Batché gagnait déjà 2-0, on a vu cette équipe lyonnaise changer, mais... Je pense pas que ça vienne du coach, ça. Je pense réellement que les joueurs n'ont pas réussi à le faire, et ils se sont dit on peut le faire,
tranquillement. Petit complexe de supériorité, voilà. En fait.
Mais peut-être. Je pense qu'ils ils se sont vus trop beaux, mais ils se sont dit on a réussi à le faire chez eux, ça va être tranquille à la maison, je pense, et que
après,
ça va venir.
Après, il y a un truc qu'il faut souligner quand même, et qui a dû sans doute, t'as raison, surprendre les Lyonnais, c'est l'attitude du Fener. Parce que moi, je m'attendais pas à les voir si haut. J'ai pas vu le même Fener qu'à l'aller. J'ai vu un Fenerbahçe déjà plus protagoniste, placé plus haut, pressing, qui s'est procuré des occasions. Ils ont eu longtemps dans le match plus de tirs et plus de tirs cadrés que les Lyonnais. Donc, déjà, il faut le dire ce soir, quel que soit l'effet de jeu, la qualification du Fener n'est pas du tout imméritée ce soir. Hein. C'est malheureusement pour Lyon. Et je te dirais qu'en première période, au bout de 30 minutes, je me suis dit, c'est pas possible d'entrer comme ça dans un match. Donc, j'ai parlé de Fonseca. Moi, j'entends ce que tu dis. C'est peut-être les joueurs, et c'est souvent partagé. Mais en tout cas, c'est une énorme déception, parce que ce Lyon-là, qui, je dirais que pour moi, l'accident avait déjà eu lieu. C'était le premier match contre le Sparta. Et je me suis dit, c'est bon, Fonseca a tiré les leçons. Il a récupéré des joueurs. Il a un Fofana en feu. Il a Niakate derrière. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a des gros soucis, on va en reparler, Maitland-Niles et Kluivert, il y a eu des gros soucis ce soir. Mais je me suis dit, avec le public qui a été énorme ce soir, tu peux pas te rater comme ça. Donc, ce qui me gêne et ce qui me fait peur pour Fonseca et pour Lyon, c'est que, en fin de saison dernière, dans les matchs importants, ils n'ont pas été là. Et dans ce début de saison, ça m'inquiète.
Après, moi, j'ai du mal à mettre ça souvent sur les entraîneurs, parce que j'ai joué, donc je mets souvent ça parce que je vois les entraîneurs comment ils travaillent et qu'ils veulent à chaque fois. Bah, je pense comme un match comme celui-là, ils se disaient t'es à la maison, on va aller les presser, on va récupérer des ballons hauts, on va leur faire mal. Et je pense qu'à certains moments, c'est les joueurs qui ont peut-être qui voient les choses pas différemment, mais qui ressentent différemment quand t'es sur le terrain et ils arrivent pas forcément à reproduire ce que le coach demande. Et c'est pour ça que j'aime pas trop parler du coach, parce qu'il a ces envies-là, il a une philosophie, mais à un certain moment, il faut arrêter de parler du coach. Et je pense que la responsabilité, faut mettre ça sur les joueurs.
Bien sûr.
Et les joueurs, ils l'ont, même l'année passée, ce qu'ils ont fait, t'es pas capable d'aller te qualifier directement en Ligue des Champions. Ok, on parle de Fonseca, mais je pense que les joueurs, au bout d'un moment, il y a une réflexion à avoir. Non, ils sont pas capables d'aller au-dessus de ça, de ces matchs durs, qui sont durs. Hein. C'est pas facile de les jouer, mais normalement, avec la qualité qu'ils ont, tu dois gagner ce match-là. T'es chez toi, t'as fait 1-1 au match aller, au match retour, tu peux pas te permettre de prendre deux buts comme ça face à une équipe de Fenerbahçe qui certes a des joueurs talentueux, mais c'est pas non plus la grosse équipe de Fenerbahçe qu'on aurait pu avoir.
Juste un mot sur les buts d'ailleurs, Sam. Là, dans le duel défenseur attaquant là, les Lyonnais, des enfants quoi. Surtout sur le deuxième, c'est pas possible.
Bah, c'est des enfants, et surtout, alors Samuel après va me donner son avis, mais le côté droit lyonnais. Alors, et je veux pas incriminer que Maitland-Niles qui est fautif, mais qui n'a pas été aidé du tout défensivement par Nouama. Donc ce côté droit était complètement catastrophique. Donc le Fenerbahçe en a profité. Le duel, y compris sur la tête, sur le corner. Je crois que c'est encore Maitland-Niles, mais je crois que c'est aussi Nouama qui lâche le marquage au début. Donc comme par hasard, c'est aussi de leur côté. C'est pas possible à ce niveau-là.
Oui, c'est compliqué. Après, le côté droit, j'ai du mal, moi, comme vous savez, de dire oui, le côté ce joueur. Mais quand on regarde l'action, déjà de laisser centrer un joueur comme ça, il est même pas attaqué, on le laisse. Et on sait très bien que Muriqi, il est très fort. je tête, donc tu peux pas laisser le centrer ce joueur-là. Déjà, tu dois le cadrer. Et ensuite, quand Moriki, on sait qu'il est très bon de la tête, tu dois le toucher. Et là, pour moi, il a une facilité dans le duel. Tu peux pas le laisser comme ça. C'est impossible. Et je pense que ça a été travaillé. Ils le savent. Ils l'ont vu au match aller aussi. Ils ont eu des difficultés. Et en fait, de voir des erreurs comme ça et que je pense que c'est travaillé, c'est pour ça, pour moi, c'est ça qui me tue, c'est que prendre des buts comme ça, alors qu'on sait que c'est leur force. Et je me demande comment ça a été travaillé. Et même sur des centres, tu dois travailler des centres aux entraînements, tu dois travailler le cadrage. Et je pense que ça a été fait. Mais là, sur le côté droit, oui, quand on regarde l'action, on les voit aller en dilettante, tranquille. Ah, il va centrer. En fait, ils se disent, il va centrer, il va louper son centre. Et Moriki, il va louper sa tête. Et c'est comme ça. Et au final, non.
Attends, t'as Moriki, arrêt de greffe.
Oui.
Et Moriki encore sur ses jambes. Tu as raison, il est pas bougé.
Et le deuxième but, t'as deux Lyonnais. Hein.
Ouais.
C'est qui marque le deuxième là, je sais plus.
C'est le défenseur qui de la tête.
Oh, bon, je retrouve son nom. Enfin, bref, là, les deux Lyonnais, ils sont
Brown.
Ouais, Brown, exactement.
Brown. Ouais.
Bon. Dans un instant, on accueille David au 32-16. On attend les premières réactions à Lyon. Évaluation également à suivre. Évidemment, il est 23h19. On est là jusqu'à minuit. D'ici minuit, on reviendra sur l'histoire d'Embélé au Paris Saint-Germain et également sur le Real qui a gagné ce soir avec notamment un triplé de Kylian Mbappé. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h20, Samuel Umtiti est là, Florent Gautreau est là également, Lyon donc ne jouera pas la phase de groupe de Ligue des Champions cette année, mais jouera l'Europa League le jeudi soir, car Lyon est éliminé 2-1 face à Fenerbahçe ce soir. On va faire une évaluation dans quelques minutes, mais nous avons David au 32-16 qui est supporter lyonnais et qui est là. Salut David.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut.
Bon, tu retiens quoi toi, surtout la première demi-heure là qui coûte cher, ou bien t'en veux à Fonseca, parce que mine de rien là sur WhatsApp je vois beaucoup de messages. Et effectivement, on est un peu sur le dos de Fonseca globalement, hein, côté lyonnais.
Fonseca, forcément, ça a part de responsabilité dans ce qui se passe ce soir, mais moi ce que je retiens c'est qu'en fait on a tout fait pour ne pas se qualifier en Ligue des Champions en fait. Vous en parliez un petit peu avant la pause. On s'aborde les deux derniers matchs de la saison passée contre Lens et Toulouse, alors qu'il suffisait simplement d'en gagner un des deux matchs. On se serait évité ce parcours du combattant cet été. Et puis ce soir, on joue 30 minutes sur 90. Allez, 35 si vous voulez, mais et je suis hyper déçu parce qu'encore une fois, j'y ai cru et encore une fois, je suis déçu. Et on va encore se taper des matchs d'Europa League et on est encore les dindons de la farce une année de plus.
Mais je pense qu'effectivement tu as raison, c'est comment tu peux espérer te qualifier. Là tu es en Ligue des Champions, mais c'est un barrage, mais tu es en Ligue des Champions. Il y a un enjeu dingue, il y a un enjeu pour les deux équipes. Comment tu peux espérer te qualifier effectivement en ne jouant pas 30 minutes, enfin en faisant tout à l'envers pendant 30 minutes. C'est ça qui effectivement me sidère, parce que ce que dit Sam, admettons, c'est les joueurs eux-mêmes qui à un moment donné inhibés, un peu crispés,
ouais, sûrement,
pour plein de raisons,
hein.
Et un truc. Sauf que effectivement au bout de 10 minutes, tu as aussi les joueurs dans cette équipe pour aller retourner l'affaire. Je pense à Tolisso évidemment, mais même cette équipe-là, elle a montré que c'était pas tous des enfants. J'ai vu Openda dans l'attitude, même dans les premières minutes, pour le coup il était là, il a fait un pressing intéressant dès le début du match.
Non, mais voilà. Il y a des joueurs qu'il faut. Niakate, il fait un bon match,
oui,
par
mais,
exemple.
Oui, mais justement,
tu cites, passe au travail.
Non, mais je veux dire par là que t'as les joueurs. Là, je parlais juste déjà mentalement du pour faire le switch, pour les retrouver le bon chemin. Et moi, c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre devant le match. J'étais très frustré. Effectivement, hier, on a dit, et je veux pas me cacher, j'étais très confiant.
On était tous confiants.
J'étais assez confiant parce que effectivement, de ce que j'avais vu du Fener à l'aller et de ce que je voyais de Lyon, y compris dans le fait que Fonseca avait pris ce petit risque en Ligue 1 en changeant son équipe, tout était réuni pour que ça se passe bien. Quand c'est comme ça et que tu détricotes tout dès les 30 premières minutes en ne faisant pas ce que tu dois faire, je trouve que c'est un suicide collectif en fait.
Ouais, c'est un suicide. Après, la grande différence entre le match aller et le match retour, moi je parlerais de l'engagement. Le match aller, j'ai beaucoup aimé l'Olympique Lyonnais. Ils ont gagné les duels, c'était pas simple du tout. Et là, sur la
tiens,
première
Sam,
mi-temps,
je te coupe. On va écouter Loïs Openda. Il est dans la zone d'interview là.
Après ce match, après la défaite, on espérait beaucoup mieux. On espérait prendre cette qualification et jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ce soir. Et voilà, maintenant il faut continuer. On a un match très important samedi. Une longue année, une longue saison. Aussi l'Europa League qui sera là. Et voilà, ce sera à prendre avec beaucoup d'importance.
Du coup, il est rude hein, ce soir.
C'est sûr que ça fait pas plaisir. On était préparé pour gagner ce match, je pense comme l'équipe adverse aussi. Dans ce genre de match, il y a toujours une équipe qui gagne. Aujourd'hui, c'était Fener. Félicitations à eux. Mais maintenant, comme j'ai dit, il faut se concentrer sur notre saison, la Ligue 1, la Coupe et l'Europa League.
Est-ce que vous avez revu l'image du dernier but refusé? Est-ce que vous avez compris la décision de l'arbitre?
Ouais, je l'ai revu brièvement, mais je pense que j'étais quand même hors jeu. Mais c'était très limite. Après, c'est la décision de l'arbitre. C'est pas ma décision. Si c'était la mienne, j'aurais pas dû hors jeu, forcément. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le foot.
Bon, il parlait du troisième but, le journaliste, enfin, il n'a pas compris, mais c'est pas grave. Donc, si s'admet lui-même hors jeu, c'est fair play. Bravo Loïs Openda. Donc, je t'ai coupé.
Ouais, moi, je parlais de l'engagement des Lyonnais. Il y a une grande différence par rapport au match aller. Ils gagnent quasiment tous leurs duels, ils ont été performants. Et là, on voit direct sur la première mi-temps, ils n'ont pas gagné un seul duel quasiment. On n'a rien vu, ça manquait d'intensité aussi, ça soit dans les courses, dans le mouvement, sur la première mi-temps. Et je pense qu'ils perdent vraiment le match là-dessus. Et si cette équipe avait pu en tout cas garder cette solidité-là, défensive, je pense que le match, ils auraient peut-être remporté ce match-là.
Est-ce
là,
que Tolisso n'est pas un peu, parce que c'est souvent le baromètre de l'équipe, en première mi-temps, on avait un milieu de terrain assez étrange, on ne voyait pas beaucoup Tolisso.
Ouais, alors c'est vrai que moi, il y a deux choses. Individuellement, pour compléter ce que dit Sam, il y a quand même des questions aussi individuelles sur la défense. J'ai parlé de Maitland Niles,
oui, je vais parler
de Kluivert évidemment, parce que en dehors de des actions sur les buts, Kluivert sur 2-3 trucs improbables, je laisse sortir la balle en corner, le ballon faisant une erreur technique, enfin il y a des choses, on parle quand même d'une équipe qui joue la Ligue, enfin qui veut jouer la Ligue des Champions, d'une équipe top 3 ou top 4 en France, c'est gênant, c'est embêtant. Mais après effectivement tu as raison, sur la première période, c'est la salle des machines, le milieu de terrain n'était pas là. Tu vois Morton qui est un super joueur, bah oui, il y a eu cette frappe, mais ils ont mis une demi-heure à se réveiller. Et c'est vrai que même Tolisso, on l'a moins vu, y compris. Alors j'étais pas au stade, je vois moins, je préfère quand je suis au stade, mais on l'a moins vu, tu sais, aussi en boss, tu sais, pour aller justement renverser un peu cette histoire d'engagement dont parle Sam.
Ouais, non, après moi de ce que j'ai pu voir au milieu de terrain, c'est vrai que sur cette première mi-temps, franchement, il y a rien à dire, on n'a pas vu grand-chose, mais ensuite on a quand même vu des joueurs essayer et même un peu trop, parce qu'on les voyait tous déjà alignés dès qu'il y avait par exemple Morton qui avait le ballon, t'avais les trois attaquants devant et plus les deux milieux qui était déjà aligné, il n'y avait pas forcément même de joueurs dans les espaces attendus. Donc ouais, mais c'est une grosse déception pour cette équipe lyonnaise. Mais je pense vraiment que c'est eux. Ils ont, je pense, tué, on va dire, ce match-là. Et si on repense à ce qui s'est passé l'année dernière, ils n'ont pas réussi à se qualifier. On attendait tous de voir autre chose. Et encore une fois, là, on voit que sur les moments importants, cette équipe et certains joueurs ne répondent pas forcément à présent.
Tiens, Corentin Tolisso dans la zone d'interview, on écoute.
De faire un très gros match et de se qualifier, malheureusement, on n'y est pas arrivé, on n'a pas réussi à emballer le match. Au-delà de ça, on prend un but où je pense qu'on peut mieux faire. Le deuxième but aussi sur coup de parité, c'est pas possible. Et voilà, après, on a pas lâché, on a réussi à mettre ce...
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h35, Samuel Umtiti et Provotro sont là. On finit notre analyse du match Lyon-Fenerbahçe, victoire de Fenerbahçe 2-1. Donc à Lyon, évaluation. Tiens, on va démarrer l'évaluation avec Solal qui est avec nous au 32-16. Solal, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Solal.
Solal, bonsoir. Homme du match, pied carré, boulet, Casper. Enfin, tu connais les catégories de l'after. Est-ce que tu as quand même un ou deux Lyonnais à sauver là ce soir?
En première mi-temps, en réalité, il n'y avait pas vraiment de Lyonnais à sauver. Il y en a qui ont été moins mauvais que d'autres, mais il n'y a personne qui a été extraordinaire. En deuxième, moi j'ai quand même, dans l'ensemble du match, bien aimé Malik Fofana. Il a fait un bon travail sur le côté, qu'il a apporté du dynamisme. Tolisso, au final, il a quand même pris plutôt le match en main en deuxième mi-temps. On voyait qu'il était très présent, même dans la communication, et qu'il a pris un rôle de capitaine assez important. Donc je le ressors également.
Diakaté,
je trouve que il y a eu une légèreté au niveau de la défense en termes de création offensive. Il y a eu énormément de passes latérales entre les défenseurs, donc il y avait un trou au milieu en fait. Donc c'était pas évident pour eux, mais je trouve pas que Niakate ressort particulièrement.
Moi, Niakate, je vais te dire aussi. Moi aussi, j'ai trouvé que. J'ai pas trouvé que c'était son meilleur match, quoi. Moi, c'est un joueur que j'adore. Mais quand tu vois qu'il y a 2-0, que tu vas sans doute te prendre des méchants contres avec Greenwood et autres, et que t'as Kluivert à côté, je dis pas qu'il considère que son copain est nul, hein, mais je pense que t'es obligé de te dire, il faut aussi que je sois là pour sauver la baraque. Enfin, tu vois, parce que moi, je craignais beaucoup le troisième but du Fener avec un Greenwood qui allait te tuer, sur un
failli arriver sur une énorme boulette de Kluivert, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai pas envie d'accabler Niakate parce que franchement, à côté de lui, il avait côté droit un Kluivert qui a raté son match.
Non, par contre, on peut accabler Kluivert.
On peut accabler Kluivert et puis Maitland Niles que, moi, je comprends pas ce joueur. Alors, je vais te dire, parfois, il a fait des très bons matchs. Là, il est pas bon quand même. Il est pas.
Ouais, mais comme tu dis, je pense que pour parler de Niakate, je pense qu'il, pour moi, il était très solide. Et d'abord, c'est un défenseur, donc avant de parler de tout ce qu'il peut apporter offensivement, mais il a été très solide et il a dû compenser énormément sur des erreurs de Kluivert. Donc, pour moi, chapeau pour son match. Et c'est vrai qu'à droite, je trouve pas que Maitland Niles, il est. Je pense qu'il des fois il a des pertes de concentration et pour moi c'est un bon joueur. C'est que mon avis, mon opinion, mais ces pertes de concentration là, des fois tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Et même défensivement, il peut être très bon.
Parce qu'on va écouter Mathieu Louis-Jean parce que c'est le directeur sportif de l'OL et quand il vient parler en général, c'est qu'il a quelque chose à dire.
Oui, extrême déception. On est vraiment vraiment déçus parce que voilà, après le match aller, on était assez préparé pour pouvoir essayer de passer ce match ce soir. On a manqué notre première mi-temps. Deux actions, on est passé sur les débuts, ça nous coûte cette qualif. C'est ça aussi le haut niveau. En face, il y a des joueurs talentueux. Maintenant, on a tout donné. La deuxième mi-temps, on a essayé de pousser. Le public a été fantastique. On a cru qu'on allait revenir à 2-2. Je pense que ça aurait pu tourner si on avait mis ce deuxième but. Mais bon, les gars ont fait les efforts jusqu'au bout, mais il y a énormément de déceptions.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter des conséquences maintenant, notamment sur la fin du mercato?
Non. Je pense que, encore une fois, c'était un objectif important pour nous, parce qu'on voulait bien sûr participer à cette Ligue des Champions. Maintenant, on va participer à l'Europa League. On a gagné dimanche, samedi dernier à Toulouse. On a un match qui arrive vite avec le match du Havre. Il va falloir se concentrer sur le championnat et l'Europa League qui va arriver vite aussi.
Est-ce que les.
C'est Mathieu Jouyor hein, qui s'exprime bien sûr en direct dans l'after. Directeur sportif de Lyon.
Toute la semaine, ces derniers jours.
Non, je pense que oui, on était prêts. Encore une fois, ça c'est le très haut niveau. Fenerbahçe est une équipe avec des joueurs qui sont de très haut niveau. Ils ont énormément investi pour justement participer à cette Ligue des Grands Champions. Ils étaient favoris. Maintenant, on pensait pouvoir faire assez pour pouvoir passer ce tour. Encore une fois, voilà, les erreurs, tu les payes cash à ce niveau-là. Et en premier temps, on a fait les erreurs qui nous ont coûté cette qualif.
Bon, rien de spécial, rien de fracassant pour Mathieu Louis-Jean. Il s'exprime pas après chaque match. Donc en général, quand il vient, c'est qu'il y a,
mais après, c'est correct,
il y a un message à faire passer.
C'est correct ce qu'il dit. C'est oui. Le haut niveau, c'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas si cette équipe méritait d'être en Ligue des Champions. Le haut niveau, c'est tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit de faire ce genre d'erreur-là qui coûte une
qualif. Retenons quand même qu'il nous dit que ça n'aura pas de conséquences sur le mercato.
Ouais,
j'attends de voir.
Si
c'est vrai.
Je pense que s'il vient, on va dire le message, le simple fait de sa venue, c'est pour rassurer un peu tout le monde en ayant l'air de dire il n'y a pas le feu à la maison. En championnat, on est bien parti et la Ligue Europa, on va la jouer. Pas de panique. Et en plus, il a dit effectivement, mercato, ça ne bougera pas. Là, on peut avoir des doutes, mais en tout cas, l'idée pour lui, c'est de venir dire il n'y a pas de panique, il n'y a pas de scandale. Mmh. Après, sur l'analyse du match, il fait la bonne analyse. Effectivement,
sur Maitland Niles,
je parlais de lui que sur sur quasiment tous les matchs que j'ai pu voir, à certains moments, je me suis dit, waouh, quel joueur! Mais dès qu'il perd cette concentration, je me dis aussi, waouh, quel joueur! c'est ça le problème. Et le haut niveau, c'est ça. Tu peux pas te permettre, sur des matchs de ce niveau, de perdre ta concentration, ça soit dans des duels, ça soit sur du placement, ça soit sur tout ce qu'il a pu faire. À certains moments, c'est, tu dois être là-haut. Et il a réussi à nous montrer qu'il pouvait être ce genre de joueur. Mais ce soir, non.
Et après, sur on va dire le remplacement, enfin, parce que Maitland Niles fait partie de ces défenseurs aussi, très offensifs et parfois impressionnants offensivement et moins défensivement, cette génération de défenseurs, tu vois, qui ne sont pas assez défensifs, quoi, défenseurs. Et derrière, je regardais par qui tu peux le remplacer. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'histoire dans l'effectif hein, là actuel. Ouais. C'est aussi ça la question. Je trouve qu'il y a pas mal de.
Mais là, il a été remplacé, non,
par, par le comment Atekame.
C'est
plus offensif, je crois. Un peu, il a un profil peut-être lui aussi assez offensif. Donc, je sais pas si défensivement, il serait capable d'être l'arrière droit, tout simplement, tu vois, de l'OL. Je sais pas, je le connais pas assez. Mais il y a cette question-là parce que. Offensivement, il y avait de la, il y a du monde sur le banc. Quand tu vois Boudage, quand tu vois Schulz qui est rentré quand même. Bon, donc
toujours plus compliqué. Ça fait toujours plaisir de revoir Tony Verrel d'ailleurs quand Schulz rentre.
Ah ouais, mais Bitstrup, il a pas un petit côté capillaire aussi.
Ah, Bitstrup, il y a aussi un truc. Ouais. Il y a aussi plus Thomas Brolin que Tony Verrel.
Ouais.
Solal, qu'est-ce que tu penses du match de Nouama?
Nouama, offensivement, il a apporté pas mal de choses, je trouve. Il avait du dynamisme. Mais sans apporter non plus quelque chose de concret.
Ah, moi, je suis déçu.
Défensive, son apport défensif a vraiment planté la première mi-temps.
Ah, moi, ouais,
parce qu'il n'y a pas que sur le but, c'est dans
Là, je pense que tu vois, assez typiquement dans le foot d'aujourd'hui, puisqu'on parlait du mérite dont parle Sam, il a raison. Si ça passe peut-être dans certains matchs, admettons de pas faire le repli, de pas venir aider ton arrière latéral et tout, mais ça passe pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que contre Fenerbahçe qui a certes bien joué, mais qui est pas non plus l'équipe du siècle, en fait, sans doute que tu perds cette première mi-temps, notamment. Alors tout le monde a manqué d'engagement, c'est vrai, et le milieu aussi, mais tu perds cette mi-temps parce que Nouama ne vient pas aider Maitland Niles deux fois ou trois fois dans la mi-temps. Donc voilà. Et deuxièmement, offensivement. Bah moi quelque part je ne vois pas faire de différence.
C'est ça que j'allais dire.
Pas
c'est
assez.
Que il fait quand tu le vois il prend le ballon il essaye de percuter mais ensuite dans le dernier geste ou l'avant dernier geste je le trouve pas forcément décisif. Moi.
Contrairement à Fofana.
Voilà, exactement. Et parce que comme on le voit, il court, on se dit waouh, c'est exceptionnel. Mais non, la réalité, c'est qu'un joueur, à sa position, ce qu'il doit faire, c'est soit tu rentres dans la surface, tu trouves un joueur, mais il a des pertes de balles énormément. Et le haut niveau, comme c'est ça. Et je pense qu'on doit pas, on doit être exigeant avec lui parce que il a des qualités techniques quand même. On le voit, le toucher du ballon, on se dit, il peut faire quelque chose. Mais sur plusieurs matchs, et c'est pas que ce soir. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup plus que ce qu'il est en train de faire.
Mais là pour moi, je le noterai sévèrement, parce que défensivement, j'en ai parlé, et comme dit Sam, offensivement, est-ce qu'une fois, tu l'as vu passer derrière son défenseur, éliminé? Il est parti.
Ah oui, il l'a fait, il fallait qu'il lève la tête pour la mettre dans l'axe.
Il a mis le feu, il est peut-être passé une fois. Et à l'inverse, effectivement, quand il rend. En fait, il fait souvent les mauvais choix. Il passe pas souvent, il élimine pas souvent alors que son lui demande c'est d'éliminer. Je te dis, la copie inverse, c'est quand même Fofana qui lui montre sur quelques matchs que l'élimination, le crochet, qui met en plus un très beau but du pied gauche. Il y a une différence entre les deux et là effectivement sur ce match-là.
Oui, il y a une différence. On peut pas satisfaire de ce qu'il fait offensivement. On doit aller lui demander beaucoup plus que ça parce que de l'autre côté, quand tu vois un Fofana qui est capable de rentrer, de trouver un joueur dans la surface ou même de centrer, et sur son dernier geste, il est bon, Fofana. Et même là, on voit sur son but, il est très bon. Alors que Nouama a beaucoup de déchets encore, et je pense qu'il y a encore une marge de progression là-dessus.
Solal, un truc à rajouter?
À rajouter sur les notations, mais pour la petite anecdote, il y avait Talisca sur le terrain.
Ouais.
Je sais pas si t'étais dans l'équipe, Sam, mais à l'époque, il avait affronté Lyon quand il était au Beşiktaş. Il me semble que c'était en 2016.
Ouais,
2017.
Moi, c'était l'année où je suis parti. J'étais déjà parti.
C'était un match de dingue. Là, ce soir, il n'a pas fait un super match, mais à l'époque, il n'était pas mauvais. Et c'était un des matchs qui m'a le plus marqué avec une séance de tir au but à la fin. Qui était extraordinaire. Et Lyon s'était qualifié et il était sur le terrain.
Mais après, moi, avec Talisca, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on en parle beaucoup parce que je pense qu'il a mis des buts extraordinaires. Mais son niveau de jeu, pour moi, on lui demande, sur d'autres matchs que j'ai pu voir, je me dis, waouh, en fait, c'est parce qu'il marque des buts extraordinaires et c'est tout.
À côté Fenerbahçe, on peut dire qu'à Mamo, Skriniar, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu aussi à bloc avec le PSG.
J'ai vu déjà plus affûté, déjà, moi, depuis le début. Là, je le vois très affûté par
rapport à ce que j'ai vu. Mouriki, qui a mis ses buts l'année dernière.
Non, moi,
avec sa tronche à jouer dans Game of Thrones, il est fort. Et réhabilitation d'Angolo Kanté ce soir.
Ouais, très bien meilleur.
Gros match. Alors qu'à la Coupe du Monde, le pauvre, il a pas joué.
Il a pas joué, mais tu vois, il faut quand même parler, on l'a pas assez fait peut-être depuis le début, de l'aspect physique. Si Fenerbahçe a été si mauvais, on va dire, inoffensif la semaine dernière, et en pressing assez inoffensif également, c'est parce que physiquement ils n'étaient pas bien. Et on a vu que la semaine, par exemple pour N'Golo Kanté, tu vois que chaque semaine, chaque jour compte pour revenir à ton niveau quand même. Il était meilleur. Après, sur Moriki, finalement, il est mieux dans l'axe aussi. Donc, c'est vraiment là qu'il fait du mal. Donc, quelque part, c'est son poste. En revanche, ce qui nous ramène aussi un peu à la déception lyonnaise du soir, c'est que Asensio n'était pas là. L'autre joueur, j'ai oublié le nom, l'autre joueur offensif aussi. Il y avait deux joueurs offensifs majeurs qui n'étaient pas là, c'est Fenerbahçe. Donc, ça aussi, c'est un peu inquiétant parce que le Fener avait mis son équipe type pour le match de championnat parce qu'il devait le gagner, là, contrairement à Lyon. Tu vois, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient favorables à Lyon. Ce qui fait qu'à la fin, effectivement, tu peux dire que le Fener a mérité cette qualif. Et Moriki, oui, il a été décisif, hein, hyper important. T'as des attaquants comme ça dans la surface.
C'est dur. Ah oui, tout le match comme ça, sur les deux centraux, il les a pas lâchés. Et que tu vois qu'il gagnait ses duels, il arrivait à protéger, à garder, à faire monter son équipe. C'est merveilleux, ça, pour une équipe.
Après, moi, j'ai bien aimé. Alors, même si au début, je me suis dit qu'il allait avoir des failles, c'est leur arrière qui a marqué Brown, là, qui a fait quand même du boulot. Et offensivement et défensivement, puis qui marque ce deuxième but qui fait quand même beaucoup de mal à Lyon.
Toujours non, mais, dans le mais on voit, je trouve que cette équipe du Fener a quand même une maturité peut-être que les joueurs lyonnais n'ont pas.
Il y a des joueurs qui ont
évidemment.
Oui, mais on voit la différence. Là, on a vu, même de mentalité, on a vu une différence entre le match aller et ce match de ce soir. Moi, je m'attendais pas du tout à les voir comme ça. Et là, ils sont venus comme des chiens. Ils se disaient, pas du tout. On va gagner nos duels, on va aller les chercher, on va prendre des ballons. Et c'est ce qui s'est passé. Ils gagnent le match comme ça.
C'est vrai que mentalement et dans l'exemple, Kanté, c'est toujours plus dans l'exemple, dans ce qu'il fait. Guendouzi, c'est aussi dans l'attitude.
Mais Guendouzi, je redis, il a
fait son match. Non, mais ce que je veux te dire, c'est ça. C'est à la fois dans l'attitude. Quand tu vois en face de toi des gars qui sont des chiens, sur le terrain, physiquement, au pressing, mais aussi des mecs qui, comme Guendouzi, te chambent, de trucs, tu dis, tiens, on va vivre l'enfer, quoi. Et t'as quand même Nathan Aké, expérience des grands championnats, Ederson, le gardien, qui sort la frappe de Morton au passage. Donc, c'est vrai que ça compte, l'expérience à ce niveau-là.
Bon, Guendouzi, il peut très bien se retrouver contre le PSG au Parc des Princes, ce qui refera le coup du Marseillais.
Je pense qu'on peut lui faire confiance.
C'est possible, hein, avec le tirage au sort qui aura lieu demain. Bon, voilà pour l'OL. Je remercie Solal au 32-16. Dans un instant, on est de retour avec Dembélé au programme. L'Espagne également et le reste de l'actu du jour. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Florent Gautreau et Samuel Umtiti sont là. Il faut qu'on revienne sur ce qui s'est dit hier soir dans l'after concernant Ousmane Dembélé. Et l'expérience de Samuel va peut-être nous servir. Bah oui, non, mais il faut qu'on on va te retracer notre soirée. Parce que des fois, l'info se fait en direct, en fait. C'est ce qui s'est passé hier soir dans l'after. L'after hier démarre à 22h. Quelques minutes avant, une demi-heure avant, on apprend par l'entourage de l'agent d'Ousmane Dembélé qui ne jouera pas le match contre Lille. Bon, on n'en sait pas plus. Bon, quand même, ça interpelle. On a vu ce qui s'est passé à Rennes, où il sort à la mi-temps, il n'est pas content, il n'est pas bon. J'oublie cette étape, derrière, communiqué du club, assez laconique, genre repos, on donne un repos à Ousmane Dembélé jusqu'à mardi prochain. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? On est en direct. Donc, tout le monde envoie un peu des textos, gens qu'on connaît, contact d'Ousmane Dembélé, le club, l'entourage, des gens qui peuvent nous donner des informations concrètes sur la situation. Et les premiers retours qu'on a entre 22h et 22h30, c'est « Oula, la situation est chaude, Dembélé pas content, le club non plus, donc ça explique la mise au repos. » Donc, ce qu'on dit entre 22h et 22h30 est le fruit, Florent, des informations qui reviennent.
Et même une fois qu'il y aura la décision du club de communiquer aussi sur le fait que c'est une nouvelle façon de gérer les stars et autres, il n'empêche qu'il est dit aussi dans les infos qu'on a et qu'on avait dès le départ qu'il y a eu des discussions serrées aussi entre les deux parties. C'est-à-dire que même si cette décision elle est entre guillemets d'un commun accord, on va pas nous faire croire non plus, et c'est pas les infos qu'on a d'ailleurs, qu'il ne s'est rien passé entre les deux parties et que tout était magnifique. Ouais. C'est-à-dire que si tout avait été fluide, eh ben il y aurait pas eu de problème et à aucun moment les infos qu'on avait compris de l'entourage des différents entourages d'une éventuelle opposition et divergence à un moment donné, même peut-être qu'à la fin ça s'est réglé.
Je continue le fil de la soirée et sur la deuxième partie de soirée, donc entre 23h et 23h30, les échanges par texto continuent. Et là, les retours qu'on a, c'est attention, finalement, en fait, tout va bien. Vous en faites pas, c'est une nouvelle procédure que le PSG met en place. Ils l'ont fait les dernières, c'est vrai, ils l'avaient fait avec Hakimi par exemple, en mettant Hakimi au repos.
Oui, peut-être même un peu Fabian Ruiz, sans que ça se sache.
Donc nous, à 23h30, évidemment, ce que dit la
différence affaire, quand même, le communiqué.
Oui, le communiqué.
Parce qu'il n'y a pas eu un communiqué à chaque fois qu'un joueur était laissé un peu au repos, on n'a pas eu droit à un communiqué.
Sur Hakimi, il l'avait fait.
Ouais, mais pas surtout, à mon avis, pas sur tout le monde.
Ce que dit l'after hier soir à 23h50, évidemment, est très différent de ce qu'on dit à 22h10, mais parce que les infos qui nous reviennent sont différentes. Donc en fait, aujourd'hui, on se fait un peu allumer en mode oui, mais vous avez dit n'importe quoi.
C'est le jeu, c'est le jeu, c'est normal.
Mais ce soir, on peut pas dire que j'ajoute quand même, élément important, aujourd'hui on apprend, Fabrice Hawkins qui est sur tous ces dossiers-là, nous dit aujourd'hui, le PSG fait savoir que la prolongation de Ousmane Dembélé est en très bonne voie. Donc est-ce qu'on est en droit quand même de se dire qu'il s'est passé des choses ces derniers jours, peut-être à un moment de la tension, puis plus de tension parce que peut-être que finalement on s'est entendu, qu'il y a eu un apaisement comme ça qui s'est fait. Enfin, comment est-ce que tu vois tout ça, toi?
Après, c'est vrai que c'est ce genre de situation. Il y a tellement de choses qui se passent que, bien évidemment, quand on n'est pas dedans, on peut faire 10 000 interprétations possibles. Et entre certaines personnes qui t'appellent pour donner cette info, pour que ça fasse du bruit, pour que le club commence un peu à se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire.
Et dans un sens, on a pu se faire aussi manipuler, nous, en disant tiens, les gars, vous avez vu ce qui se passe.
Je pense, mais c'est facile de se faire manipuler. Donc oui, je pense que c'est le jeu entre les médias, les joueurs ou même le club et les agents aussi ou les personnes qui parlent, c'est normal. Mais on va jamais savoir. Après, je pense que Ousmane a sûrement besoin de repos. Il n'en a pas eu énormément et on connaît aussi son passif avec certaines blessures. Donc je pense que ça va lui faire du bien, que ça soit mentalement, physiquement, et il continuera à travailler pour être prêt pour toute cette saison qui va être aussi intense.
Bon, en tout cas, voilà, vous comprenez bien quand on fait comme ça, on est en direct et que les choses se passent et qu'on essaie de récolter les informations alors que nous sommes en direct.
Et après, on
essaie de faire le maximum. La bonne foi qui nous caractérise.
Il faut pas perdre de vue que
des fois on nous dit qu'on en a pas de bonne foi.
Non. Moi, je suis là pour dire qu'effectivement, on travaille en toute bonne foi. Mais il faut pas non plus être totalement naïf et se dire que parce que le PSG a réussi, in fine, à mettre en place cette communication qui dit. On vous informe que c'est un nouveau mode de management ou qui a déjà un peu eu lieu par le passé, mais qui sera généralisé. On peut être aussi en droit de se dire que c'est une façon habile de communiquer pour régler une affaire qui était quand même un petit peu chaude et un peu complexe. Et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce qui était notre première version dimanche soir au stade, enfin moi j'étais au stade à Rennes, mais quand on a fait l'after, pour dire que l'option Ferran Torres est une option très importante pour Luis Enrique pour aller piquer, titiller et récupérer un Dembélé très fort. Moi, hier, c'était mon scénario 1, je le répète. Après, il peut y avoir un scénario 2, il pouvait y avoir un scénario 2 où ça va au clash, ça va au départ, ça va à tout ça. On a évoqué le scénario 2, c'est vrai, parce qu'il y avait des infos qui pouvaient le laisser penser. Mais le scénario 1, il est celui-là. Et il n'empêche que Dembélé n'était pas content de pas jouer le match contre Aston Villa en titulaire, puisqu'il avait fait des efforts pour revenir à temps, avait-il dit. Il n'était pas content, et c'est légitime de sortir à la mi-temps et d'être un peu puni avec Vara dimanche soir. Et que derrière, il y a quand même une explication entre les deux parties. Donc, il y a une histoire, évidemment, qui est maintenant racontée par le Paris Saint-Germain avec une version très clean, on va dire, qui est de dire tout est OK, tout est sous contrôle, on le met au repos. Et c'est décidé, on va dire, entre les deux parties. Mais on peut aussi estimer que c'est une communication réussie pour un passage très compliqué de ce début de saison.
Alors les gars, petite déclin un peu forte de Fonseca là quand même, en conférence de presse il y a quelques instants. Un journaliste lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez fait un changement qu'à la 60e minute, c'est pas un peu tard? Écoutez sa réponse.
C'est toujours la même question. Mais je suis habitué. Qu'est-ce que je peux dire? À la fin du match, c'est très facile de parler, des changements, est toujours le même. C'est pourquoi, la raison peut-être que je suis un entraîneur de merde. C'est l'explication.
Bon. Je pense qu'il est contrarié, évidemment. Il a quand même dit par ailleurs, il n'est peut-être pas exclu qu'on soit obligé de vendre.
Ah. Voilà ce qu'a dit. Mais tout le monde connaît la situation du club. Hein.
Cela dit, je suis pas en désaccord avec la question du journaliste. Je pense que
changement tardif.
Non, tout simplement, c'est la première mi-temps ratée. Tu peux aussi avoir effectivement une attitude qu'on voit beaucoup, comme dimanche soir au Roazhon Park du côté parisien, ou à la 46e, ton fameux côté droit, tu dis les gars, c'est pas possible. Je change. La différence, c'est que Luis Enrique, il a sur le banc de touche Fabien Ruiz et Ferran Torres.
D'accord.
Alors que là, t'avais Boudache et Atécamé. Mais,
c'est pas du tout la même chose.
C'est pas la même chose, mais c'est peut-être effectivement, tu peux te dire, tu essaies de renverser la table en disant.
Après, moi, je pense qu'il l'a bien fait à la mi-temps, parce qu'on a vu cette deuxième mi-temps qui a été bien meilleure que la première. Donc, t'es pas forcément obligé de faire des changements, comme l'a fait Luis Enrique. Après, Luis Enrique, il sait pourquoi il le fait aussi. Il connaît ses joueurs et il arrive aussi dans une période où tu viens de tout gagner pendant 2 ans, et là tu sais que t'es obligé de remobiliser, on va dire, tes joueurs, parce que tu sais que la troisième année, les gens vont être un peu tranquilles. On l'a fait 2 fois, et il sait très bien pourquoi il le fait. C'est différent.
Pour conclure, je vous ai promis les chapeaux. Demain, 18h, tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG, évidemment, tenant du titre, est dans le chapeau 1. Sachez que Lille sera dans le chapeau 3 et que Lens sera dans le chapeau 4. Alors, les chapeaux avec la nouvelle formule, ça a moins d'importance qu'avant. Hein, mais bon, je vous le signale quand même. Demain, 18h, tirage au sort qui sera à vivre sur RMC, bien sûr. Dernière info niçoise. Coup dur pour Nice après un Bergel blessé. C'est Bombito qui se refait opérer de la.
Oui, Bombito, ouais.
Le Canadien qui va se refaire opérer de la jambe gauche. Donc, et sans doute pas mal de semaines d'absence à nouveau pour lui, déjà que l'année dernière il n'avait pas beaucoup joué.
Tu sais qu'il y a un barrage potentiel en Ligue des Champions, puisque le PSG est passé par les barrages. La première fois ils sont passés contre Brest, la deuxième fois contre Monaco. Donc normalement là c'est Lens ou Lille en barrage.
Très bien, tu l'auras annoncé. Merci Sam pour ta présence ce soir. À très vite.
Salut Sam.
Merci à vous. À bientôt.
On se retrouvera peut-être les jeudis du coup. Flo, ciao. Demain, ciao. L'after sera là à 20h, Génération After. Et à 22h, l'after, bien sûr. On n'a pas pu joindre Edgar Grollo en Espagne. Il est bloqué dans l'ascenseur au Real. Problème dans ce nouveau stade, apparemment. Mais en tout cas, le MJDM, Kylian Mbappé a mis un triplé magnifique. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.